Présence dans le Lauragais 97.9.
Et voilà, nous sommes lundi, et comme tous les lundis, on est très heureux de vous retrouver pour ce Présence Midi, avec aujourd'hui, accompagné de vous, David Torchala, bonjour.
Mais bonjour Philippe, ben oui, nous on aime bien le lundi à Lourdes, oui. On se retrouve, c'est bien.
Voilà, et je crois que vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous avez une invitée.
J'ai une invitée, tout le monde l'a vu au 13h de TF1, c'est Delphine Guessem-Buru qui est la responsable des cierges, on va parler des cierges de Lourdes avec Delphine. Voilà, c'est intéressant, on va essayer d'entrer à l'intérieur de cette organisation.
De cette, des feutiers, voilà, c'est un nom qui fait toujours rire.
Feutier, vous savez pourquoi on rit? Ça, c'est le nom des gardiens du feu, parce qu'en fait, ce métier, il n'existe pas dans le dictionnaire, voilà. Il a été inventé à Lourdes.
Et bien voilà, il reviendra dessus. Et puis, on parlera d'un livre. Tiens, j'aurai la semaine prochaine Anne Lasserre pour son dernier livre, Voyage aux Pyrénées, de Bordeaux à Gavarni, en passant par le Pays Basque. Mais là, on parlera d'un livre qu'elle a fait sur sa vie intime. C'est la mort de son mari. Elle a écrit un livre, Si je m'endors, tu me réveilleras. On l'aura donc d'ici quelques instants par téléphone. Et puis Mathias Terrier sera avec une stagiaire que vous avez bien connue, Félicia. Elle s'appelle dans l'émission De Passage à Lourdes, David.
Ah oui, Félicia, elle avait très très peur. On l'entend dans cette interview. C'est bien de le réécouter.
Voilà, de l'entendre. On écoute bien sûr les meilleurs moments pendant cet été. Alors, juste le temps d'un jingle, David. Et puis on vous retrouve pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Nous allons donc parler maintenant avec vous, David Torchala, de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et vous n'êtes pas venu tout seul.
Oui, c'est ce que je disais en introduction, je suis avec Delphine Guessem-Buru. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine, vous êtes responsable de ce service des cierges au sein des chapelles de lumière. Alors pour ceux qui connaissent évidemment, en face de la grotte, de l'autre côté du gave de Pau, il y a ces chapelles extérieures. Il y en a combien des chapelles?
Il y a 5 chapelles pour les petits cierges et 2 chapelles pour les gros cierges, donc 7 au total.
Et donc 7 au total, ouais. Ben oui, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il y a des petits cierges, des grands cierges et même des très très gros, Delphine.
Alors, le plus petit c'est 130 grammes et le plus gros, ben on va jusqu'à 70 kilos.
Ah oui, 70 kilos, c'est assez impressionnant.
Oui, on les voit des fois passer à la grotte sur la TV Lourde avec les cierges sur l'épaule en train de passer à l'intérieur de la grotte avant de partir. Donc
c'est vrai, et parfois il faut même être plusieurs. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait le pèlerinage des gitans et gens du voyage. Alors c'est vrai que ça amène des scènes assez remarquables, puisque beaucoup de voyageurs emportent des grands cierges, Delphine.
Alors on a assisté à quelque chose comme 45 minutes de défilé de petits, de moyens et surtout de gros cierges. Ils ont complété les deux chapelles avec les gros cierges, tellement que ben on a dû mettre en place des petites choses de substitution pour nos pèlerinages qui étaient là aussi à vouloir poser un cierge. Donc, mais tout, franchement, s'est passé dans une super ambiance, vraiment très recueilli, très très sympa, vraiment vraiment.
Oui, parce que c'est vrai qu'en fait déposer un cierge à Lourdes, alors oui, bah c'est technique, parfois il faut le porter quand on choisit un cierge de 70 kilos évidemment, mais c'est d'abord en fait une intention de prière qu'on vient déposer.
Ah, c'est totalement une intention de prière. On a assisté notamment avec une famille qui est venue mettre un cierge de 70 kilos. On a compris que c'était pour le patriarche qui, jusqu'à l'année dernière, était avec eux. Et cette année, ben, malheureusement, il n'était plus là. Mais l'intention, en tous les cas, elle était bien pour lui.
Et c'est ça, en fait, les cierges de Lourdes, ben voilà, les intentions, elles montent au ciel. Alors avec vous, Delphine Guessem-Buru, ben, l'idée c'est de pouvoir découvrir un petit peu de l'intérieur ce service. On a parlé très rapidement de cette profession, les feutiers. Qui sont les feutiers?
Alors les feutiers aujourd'hui sont au nombre de 12. Ils viennent de tous horizons. On a des Français, on a d'autres qui viennent de très très loin, puisqu'on a un Cubain qui est avec nous. Voilà, après c'est un métier, mais comme vous l'avez dit David, c'est un métier unique, il n'existe qu'à Lourdes, ce sont nos gardiens du feu ici aux chapelles de lumière, voilà.
Donc ils sont là pour recueillir en fait les cierges qui sont déposés par les pèlerins, c'est ça?
Ils sont là pour ils les assistent en fait pour la dépose du cierge, ils sont là aussi lorsque les pèlerins sont partis, de veiller à ce que le cierge soit toujours allumé en fait. Donc voilà, il veille, il passe régulièrement. Quand un cierge est éteint, il le rallume. Quand un cierge, il est un peu en mauvais état, ils le remettent en état pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, en fait, au bout de l'intention qui a été déposée par le pèlerin.
Oui, c'est vrai que parce que parfois, avec la chaleur aussi, on l'a vu de bon. Alors dans cet épisode caniculaire, c'était évidemment assez exceptionnel, mais parfois, la chaleur fait courber la cire.
Ouais, mais le feutier passe régulièrement. Il le redresse ce cierge pour que il aille jusqu'au bout.
C'est vrai que c'est dans le respect des uns des autres que ce service des cierges se vit. Alors les feutiers, faut dire qu'ils commencent très tôt, plutôt que vous, Philippe, il commence très tôt le matin. Il commence à quelle heure ?
Le premier feutier sur place est à 5h du matin.
Je confirme, ils sont là avant moi.
Bon, le dernier part à minuit aussi.
Donc c'est tout un roulement, toute une organisation, dont toute une présence, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cierges, c'est 400 tonnes de cierges qui sont brûlés tous les temps, et peut-être même un peu plus. Alors c'est vrai que c'est difficile d'en énombrer le nombre, donc certainement plus de 1,5 million, 2 millions de cierges. Bon, il faudrait les compter, mais ce n'est pas votre quotidien.
Non, ce n'est pas notre quotidien, c'est vrai. On est plutôt là pour veiller à ce que les cierges soient puissent trouver une place pour les intentions du pèlerin qui arrive.
Et oui, c'est ça, il faut trouver une place, laisser se consumer ce cierge jusqu'au bout. Ouais. Et puis forcément on est passeur d'espérance aux chapelles de lumière. C'est aussi l'occasion de dire que les cierges sont fabriqués à Lourdes, Delphine Guessin-Buru.
Oui, alors les cierges sont fabriqués à la ciergerie de Lourdes. Ils sont pour la plupart faits sur du trempage. Ça c'est pour les cierges dits classiques, et après on a du cierge aussi qui est moulé, donc ça c'est pour les grosses catégories. Il y a 15 personnes qui travaillent à la ciergerie de Lourdes, il faut le savoir, et donc le cierge est fabriqué à Lourdes, le cierge est brûlé à Lourdes, le cierge est renouvelé à Lourdes puisqu'il est recyclé à Lourdes. Qui est fait à Lourdes reste à Lourdes, en fait.
Et puis tout est fait à la main, parce que c'est vraiment une manufacture. Alors on le sait, la ciergerie de Lourdes fait partie de ces entreprises du patrimoine vivant de Lourdes avec ce label. Et donc vous êtes de fait en lien quotidien avec la fabrique.
Oui, nous sommes en lien quotidien avec la fabrique. Nous sommes en lien direct pour tout ce qui est renouvellement des cierges ici dans le sanctuaire, tous les jours, que ce soit du lundi ou que ce soit le dimanche, nous avons de la livraison qui est assurée. On ne manque pas de cierges.
Il faut du cierge pour tout le monde, mais c'est un défi d'accueillir les foules à Lourdes. Alors ça se fait un peu partout, ça s'affaire dans les sacristies, ça s'affaire partout dans l'entretien du domaine, etc. La propreté, la sécurité, aussi aux chapelles de lumière. Alors il y a aussi un volet qui est important, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui jamais ne pourront venir ou revenir, plus jamais revenir. À Lourdes, parce que la distance est là, parfois on vient du bout du monde, et puis parfois il y a aussi la barrière de la vulnérabilité, j'ai envie de dire un peu la barrière de la maladie ou du grand âge. Et donc il est maintenant possible, alors ça fait quelques années, mais c'est de plus en plus demandé, ce sont des cierges qui vous sont confiés par internet.
Alors tous les jours, nous recevons par email les commandes passées par les pèlerins qui n'ont pas la chance d'être avec nous. Et tous les jours à 16h05, nous allumons tous ces cierges-là qui nous ont été demandés. Avec il y a une bénédiction aussi qui est assurée par un chapelain du sanctuaire. Et nous avons aussi des demandes sur les gros cierges, et nous les personnalisons avec les demandes d'intention. Donc sur chacun des cierges, on y appose une intention de prière qui est commandée par le pèlerin qui peut se trouver à l'autre bout du monde.
Donc à 16h05, heure de France, il y a une caméra qui permet de retransmettre en direct, et donc un chapelain, c'est ça, vient bénir les cierges.
Oui, le chapelain est entouré par un feutier et par des bénévoles aussi. Il y a toutes les intentions de prière sont déposées à ce moment-là. Le chapelain bénit chacun à la volée tous les cierges qui ont été demandés, et il fait aussi la bénédiction des cierges personnalisés. Voilà.
Vous voyez, Philippe, avec Delphine, on découvre ce qui se passe juste après le chapelet qui est retransmis sur Radio Présence. Et bien voilà, une fois que le chapelet est terminé, le prêtre de Lourdes, le chapelain, il va traverser le Gave pour se rendre à la chapelle de lumière pour bénir tous ces cierges. Moi, j'ai une dernière question. Ah, pardon.
Oui, non, mais vous avez raison de dire qu'on peut le voir tous les jours sur TV Lourdes. Voilà, il suffit d'aller sur le site du sanctuaire. On peut voir effectivement l'allumage des cierges, puis la bénédiction du prêtre. Et puis, on peut le voir brûler puisqu'il y a un flux continu sur la chapelle de lumière.
Vous avez raison, sur le site internet www.lourdes-france.com, eh bien, il y a cette section qui s'appelle Lourdes Plus et on peut voir, Philippe a raison, c'est cette caméra qui braque en permanence les chapelles de lumière avec cette très belle statue de la Vierge. C'est un peu comme si on y était, hein, c'est ça? Parce que vous prenez beaucoup de soin, en tout cas, à respecter les demandes de chaque personne.
Ah,
ça, c'est
ouais,
important.
Oui, ça, c'est sûr. Enfin, on imagine l'attente du pèlerin qui ne peut pas être avec nous. Donc, on met beaucoup d'attention sur ces cierges-là. Peut-être un peu plus que ceux qui sont au final sur place.
Ah, c'est beau ça.
Ouais, je pense qu'on y met encore plus de cœur en fait. On en met pour les autres aussi, mais peut-être davantage pour ceux-là en fait.
Et oui, c'est vrai, parce qu'on vous demande pour les grands cierges d'y apposer une photo, un petit texte, etc. Ben, tout ça c'est fait à la main, il n'y a pas de grande usine, on prend, on imprime, on découpe, on colle, etc. Et voilà, c'est très beau et je peux même en témoigner en tout cas de tout le cœur que vous mettez à l'ouvrage. Permettez-moi cette dernière question, Delphine Guessin-Buru. Pourquoi ce métier vous rend si heureuse? Parce que quand vous en parlez, on l'entend le sourire à la radio, mais nous on le voit. Pourquoi?
Alors moi j'ai de la chance déjà. Je vais mettre en avant l'équipe, parce que l'équipe elle est fantastique. Ce sont 12 personnes uniques. Et tous les matins en fait ça m'anime de venir à leur rencontre. Et au-delà de ça, il y a tous ces pèlerins que l'on rencontre. Chaque jour est différent parce que le pèlerin d'hier n'est pas celui que je vais retrouver aujourd'hui. Et à chaque fois on donne quelque chose à chacun d'eux en fait.
Merci Delphine Guessin-Buru d'être venue. Et puis ceux qui nous entendent, quand vous venez à Lourdes, quand vous venez déposer un cierge, regardez maintenant peut-être d'une manière différente ceux qui portent un logo avec une tenue de travail. Ce sont les feutiers tous sont organisés grâce à l'implication personnelle, professionnelle, très enthousiaste de Delphine Guessin-Buru. Donc ayez une petite attention pour eux, ils sauront vous le rendre avec grand plaisir. Voilà, Philippe.
Oui, et puis moi, je ne peux que les saluer aussi parce qu'avec la chaleur et la canicule qu'il a fait, parce qu'il y a effectivement il y a ce cierge qui brûle, mais il y a toute la manutention avant pour aller les chercher, les stocker, les mettre en place, et puis ensuite gratter la cire, la ramener. Enfin, c'est un travail. Moi, je leur tire leur chapeau. Ouais.
C'est vrai, on leur tire leur chapeau. C'est un travail physique. Alors, ils ont un petit cabanon climatisé qui leur permet de prendre un petit peu de fraîcheur les jours de canicule, mais de toute façon, de la chaleur, il y en a physiquement, mais je peux vous dire que la chaleur dans les cœurs. La chaleur humaine, il y en a beaucoup. Delphine, vous viendrez nous parler de ce que l'on vit aux Chapelles de Lumière?
Avec grand plaisir.
Bon, ben voilà. Vous êtes d'accord, Philippe, pour qu'on la
revienne? Avec plaisir, exactement, avec grand plaisir. Parce que, effectivement, le sourire, on l'entend, on le voit de ce beau métier et de ce beau service qui rend. Donc, rendez-vous pour ceux qui le désirent à 16h, à partir de 16h, juste après le chapelet. Eh bien, hop, direction Lourdes Plus. Et puis, on peut regarder tout ça en direct. Merci beaucoup, David Torchala, et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine, on sera bientôt à la rentrée. Profitez cette semaine, oui. C'est encore une semaine magnifique pour venir découvrir le sanctuaire. Bah, la rentrée, ça reste encore ouvert.
Hein, bah, oui, sûr. Et puis il y a encore de beaux pèlerinages qui seront.
Oui, les 40 ans de Lourdes Cancer Espérance, vous en parlerez.
Voilà. Très bien. À la semaine prochaine, David.
À la semaine prochaine.
Allez, nous, on va poursuivre tranquillement l'autre programme et on va retrouver une amie de Radio Présence, une très grande amie, puisque c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Elle nous parle des Pyrénées, elle nous fait rêver. Et bien là, cette fois-ci, elle est auteure, elle a écrit un livre sur la mort de son mari.
Présence à Aspé, 94.1.
C'est un sujet un peu d'actualité. On va parler de la fin de vie avec vous, Anne Lasserre. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors ça va être un peu étonnant pour nos auditeurs qui ont l'habitude de vous entendre avec ces magnifiques balades que vous nous proposez dans les Pyrénées chaque semaine, Anne, de parler de fin de vie, mais on va parler de votre dernier ouvrage qui est sorti fin avril, « Si je m'endors ». Tu me réveilleras. Vous allez nous parler dans ce livre de l'accompagnement de votre mari, votre défunt mari, qui vous avez accompagné jusqu'à la fin. Donc effectivement, on parle bien de fin de vie. Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre, Si je m'endors, tu me réveilleras, qui est paru aux éditions Lazare et Capucine? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire?
Alors Philippe, je l'ai d'abord écrit pour moi. Je notais un petit peu chaque jour des événements, plus en quelque sorte pour les dépasser, je pense. Et puis ce manuscrit a eu une aventure assez étonnante parce que on m'a poussé à le faire lire à quelqu'un que je ne connaissais pas.
D'accord.
Qui tout de suite m'a dit, mais il faut absolument le publier, il faut absolument le publier. Et c'est cette personne qui l'a envoyé aux éditions Lazare et Capucine, et il a été publié dans la foulée.
Dans la foulée. Vous aviez déjà l'habitude d'écrire, vous en y êtes. Vous avez écrit plus de 20 livres. Il y a eu des recueils de nouvelles, un roman, deux biographies. Et l'avant-dernier, c'était Les cailloux seront plus doux sous vos pas. Vous étiez venu déjà en parler sur Radio Présence, en compagnie de Mathias Terrier, Un chemin spirituel. Là, vous avez décidé de nous parler de votre intimité, c'est-à-dire comment vous avez accompagné votre mari de l'annonce de sa maladie jusqu'à son décès.
Oui, vous avez tout à fait raison, Philippe. Cette fois-ci, je plonge dans mon intimité. C'est pour ça que j'étais assez bouleversée quand le livre est paru. Je me demandais comment il allait être accueilli, si j'avais bien fait. Et beaucoup de gens me font des retours en me disant que je mets des mots sur ce qu'ils ou qu'elles vivent, ou sur ce qu'ils ou qu'elles ont vécu. Et ça, c'est pour moi très émouvant et me conforte dans l'idée de la publication de ce livre. Et voilà, et donc il y a une narratrice qui accompagne effectivement l'être aimé vers une fin de vie que tous deux savent inexorable.
D'accord, oui. Et, oui. Alors, bien sûr, dans ce livre, il doit y avoir des anecdotes tristes et puis des anecdotes plus marrantes, peut-être, enfin, avec des moments un peu particuliers entre tous les deux.
Oui, voilà. Alors, effectivement, ce qui m'intéressait, Philippe, c'est de mettre en relief l'intime d'un être à un moment particulier de sa vie, ses émotions, les sentiments qui nous habitent, qui nous traversent, et comment présent et passé se mêlent, l'un éclairant l'autre. Donc, effectivement, il y a d'une part la proximité de la mort,
oui,
qui parfois empêche de vivre le présent ou pousse à le vivre encore plus fortement. Et il y a toujours la présence du passé, donc où tout était possible, où la vie circulait. Et donc, effectivement, je raconte des moments du passé qui sont plutôt vivants, qui peuvent être très drôles. Mais il y a aussi, dans la proximité avec la mort, parfois des moments où la vie semble pleine d'ironie.
Oui.
Par exemple, il y avait un vieux voisin qui avait bien vu ce balai d'ambulance entre la maison et la clinique et qui voulait absolument savoir l'âge de mon mari. Et quand je lui ai dit qu'il a compris qu'il était beaucoup plus jeune, il était presque rassuré, lui.
Ah oui, d'accord.
Alors là, j'avoue que je me suis dit, bon, c'est vraiment l'ironie de la vie.
Oui.
Ça le confortait dans le fait que lui, il vivrait plus longtemps.
D'accord.
Et en même temps, Philippe, j'ai réalisé que la vie est vraiment une succession de naissances et de renaissances. Que toute fin n'est pas une fin en soi, puisqu'elle ouvre vers autre chose. On le sait très bien, après l'école maternelle, par exemple, il y a l'école primaire, puis le collège. Eh bien, il en est ainsi pour tous les moments de la vie. La vie nous tend toujours les bras ou nous ouvre vers autre chose.
Vous étiez professeur dans votre carrière c'était un peu la maison du bonheur, hein, chez vous. Vous aviez toujours des étudiants à qui vous aidiez à préparer un concours, à préparer les examens, et puis soutenir pour certains qui en avaient besoin. Je sais que dans votre famille, dans votre maison, la porte était toujours ouverte. Est-ce que c'était quelque chose que, avec votre mari, vous partagiez?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas particulièrement, qui ont lu le livre et donc qui ne connaissaient pas André, puisque maintenant je suis à Montauban, m'ont dit, mais on voit que vous partagez beaucoup de choses ensemble. Et si vous voulez, moi, je ressens encore très fortement la présence d'André, 7 ans plus tard. Il est toujours auprès de moi. Et je continue à préparer, à relire des mémoires ou à préparer des étudiants, comme vous l'avez dit, à passer des examens ou des concours. La vie se poursuit.
Oui, alors ça c'est un joli message d'espérance. C'est que c'est vrai que ben, le deuil, c'est malheureusement voilà la mort de quelqu'un. On sait que ben voilà c'est terminé. On ne pourra plus le toucher, on ne pourra plus le voir, on ne pourra plus échanger. Après il y a la foi effectivement, la foi qui peut aider hein, en étant convaincu qu'il est parti dans un autre monde, qu'on pourra se retrouver. Et puis que des fois on a des clins d'œil, des clins d'œil de la vie, des moments un peu étonnants.
Oui, et alors Philippe, justement, je repense à un moment, pendant qu'André, une fois, était hospitalisé, il y a une amie qui me dit de venir déjeuner chez elle.
Oui.
Et quand j'arrive chez elle, son chat semble mourant. Donc, elle veut absolument qu'on l'emmène chez le vétérinaire, c'était un dimanche, donc on y va. Et finalement, le chat est soigné, comme était soigné André. D'un seul coup, je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire. Il avait une perfusion, il avait, enfin, je veux dire, comme.
Oui, comme un humain.
Je me suis dit, mais quelle image m'est renvoyée là. J'avoue que ça. Il y avait quelque chose encore, un mouvement d'humour de la vie.
Oui. Est-ce que vous partagez avec lui la fin est-ce que lui il avait espoir de s'en sortir ou est-ce qu'il était il savait qu'il était condamné, est-ce qu'il le voyait, est-ce qu'il essayait de le cacher, enfin de se le cacher personnellement?
Alors il savait oui qu'il était condamné.
Oui.
Même si on lui a proposé chaque fois, on lui disait il y a une solution, il le savait. Alors, il n'aimait pas trop parler de la mort, de sa fin de vie.
Oui.
Mais bon, il en a parlé quand même les derniers temps. Et par exemple, sans en avoir l'air, il me posait des questions. Est-ce que tu te plais dans cette maison? Et je lui disais oui, parce que j'y suis avec toi. Et il m'a dit, mais tu ne pourras pas la garder. Et effectivement, quand il n'a plus été là... Oui. C'était un trop gros poids, je ne pouvais pas la garder toute seule, cette maison. Donc j'ai compris par la suite qu'il avait semé des petits cailloux.
Oui.
Voilà. Et j'ai eu quand même... J'ai réalisé très fortement pendant ce temps-là qu'on pouvait avoir le cœur fendu et l'âme en joie. C'est peut-être difficile à expliquer.
Oui.
Et surtout, la veille de sa mort, alors que je repartais vers la clinique, qui était pas très loin de chez nous, à 4 ou 5 minutes à pied, j'ai réalisé que nos deux âmes resteraient reliées.
D'accord.
Et ça a été pour moi un grand point d'appui.
C'était fusionnel entre vous. Est-ce qu'il avait un peu quand même la tristesse de vous quitter et de vous laisser seul?
Ah oui. Donc il en avait parlé avec le médecin, donc oui. Il savait hein, que 3 ou 4 jours avant il en avait parlé, le médecin me l'a dit. Et moi ce qui m'a profondément marqué, c'était la tristesse qu'il y avait dans ses yeux les 3-4 derniers jours. Lui qui était si sensible à la beauté d'un paysage, certes il était allongé dans son lit et voyait un peu de ciel bleu, des branches d'arbres... Mais c'était la tristesse qui dominait.
C'était la tristesse. Plus que de sa propre mort, peut-être de vous abandonner et de vous laisser seul.
Apparemment, oui. C'est ce qu'il semblait avoir dit au médecin qui me l'a répété, parce qu'à moi, il ne me l'a pas dit, qu'il aurait bien voulu encore poursuivre le chemin avec moi et pas me laisser seul, effectivement.
Oui. C'est ça, souvent, la difficulté, c'est le revoir, c'est l'adieu, c'est se dire que ben on laisse la personne définitivement, même si effectivement vous disiez que les âmes sont, vos âmes sont quand même éternellement réunies et que vous le savez à côté de vous. Est-ce que ce livre, est-ce que vous avez eu des réactions de personnes qui ont vécu un deuil, qui trouvent ça absolument injuste et qui trouvent votre livre un peu gonflé de dire que effectivement c'est dur, mais que vous avez la chance d'avoir cette foi chevillée au corps et cette croyance que vos âmes seront réunies jusqu'à la fin des temps.
Alors, pour le moment, il n'y a qu'une seule personne, oui, qui me dit qu'il n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir le cœur vendu et l'âme en joie. Oui. Alors bon, j'ai essayé d'expliquer, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas parvenue à convaincre cette personne, mais autrement, je n'ai que des retours pour le moment positifs, des gens qui ont été par exemple dans le même cas que moi et qui me disent que grâce à ce livre, elles reconsidèrent la mort de leur mari différemment, l'accompagnement lors de sa maladie différemment.
D'accord.
Que ça, oui, ça leur permet de revivre différemment même cet accompagnement et cette fin de vie.
Alors, à travers ce livre, oui, vous vous dévoilez, vous parlez de votre intimité, de l'accompagnement de votre mari, de ce qu'il y avait entre vous. Vous, quand vous connaissez assez timide, lorsque est réservé et pudique, quel est le retour des gens qui ont lu votre livre? Vous mettez un peu à nu, là, à travers ce livre.
Oh. Oui, alors, beaucoup de gens sont très émus.
Oui.
Certains m'ont dit qu'ils l'avaient relu, qu'ils l'avaient lu d'une première fois sans s'arrêter,
oui,
qu'ils l'avaient relu, mais qu'ils sont incapables, après d'en parler, tellement ils sont émus et qu'ils découvrent une autre facette, en quelque sorte, de moi, oui. Ça, je l'ai, ce retour de gens qui ne peuvent pas en parler, qui sont bouleversés, mais qui lisent et relisent le livre. Oui, et pour conclure aussi, Philippe, c'est vrai que dans toute vie, quel que soit ce que nous vivons,
oui,
détresse et joie s'entrechoquent, s'entremêlent, et
oui,
c'est peut-être ça qui fait la richesse de la vie,
oui,
la force de la vie.
Oui. Vous êtes étonnante, Anne Lasserre. Vous êtes quelqu'un de passionnante, d'étonnante. On là, c'est sur tout un autre registre qu'on vous découvre. Et c'est magnifique. Vraiment, je conseille ce livre. Si je m'endors, virgule, tu me réveilleras. Voilà. Paru aux éditions Lazare et Capucine. Il est sorti au mois d'avril. Voilà aussi l'idée pour cet été, eh bien, de se plonger dans votre lecture. C'est pas un roman triste, hein, voilà. Il n'est pas larmoyant. Il n'est pas, au contraire, il est plein d'espoir et d'espérance.
Exactement, Philippe.
Merci beaucoup, Anne Lasserre. Je vous souhaite un bel été. Et puis, ben nous, j'espère qu'on se retrouvera avec des chroniques toutes fraîches. Pour s'oxygéner, on partira aussi, et ça fera du bien, vous, parce que vous m'avez emmené pendant des années faire des balades en montagne que je n'aurais jamais faites. Vous êtes passionnante. merci beaucoup à vous. Et puis, ben voilà, une idée de lecture pendant cet été. Oui, non, le sujet, des fois, pourrait sembler faire peur, où on veut pas, où on fait un petit peu l'autruche, on veut pas. Non, il fait du bien. Si je m'endors, tu me réveilleras. À très bientôt, Anne.
À très bientôt, Philippe.
I get wings to fly. Oh, I'm alive. I'm a
Et vous avez sans doute reconnu la superbe voix de Céline Dion à l'instant avec ce titre I'm Alive. Il est l'heure d'ailleurs de retrouver tout de suite l'actualité en compagnie de Carla Ponce.
Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
Et elle a passé tout cet été à notre compagnie Carla Ponce pour l'actualité de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. Dans le Gers, la fin des vacances s'accompagne d'une hausse inquiétante des comportements dangereux sur les routes. En une semaine, 19 accidents ont été enregistrés liés à la vitesse, à la fatigue ou encore à la consommation de stupéfiants. Sur l'ex-RN 124, 18 infractions ont été révélées en 3 heures de contrôle, dont 3 grands excès de vitesse. Plusieurs permis ont été suspendus. Les autorités rappellent l'importance d'adopter les bons réflexes pour éviter de nouveaux drames. Dans le Lot, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique alerte sur la nécessité de changer les comportements pour mieux gérer l'eau. 93 départements sont soumis à des restrictions, dont 46 en situation de crise sécheresse. L'instance réunit acteurs économiques, associations et services de l'État pour dresser un bilan de la ressource en eau et réfléchir à des mesures durables. L'objectif est de préserver les usages, garantir la qualité de l'eau et de protéger les écosystèmes face au changement climatique. Dans les Hautes-Pyrénées, un artisan a participé à la renaissance de Notre-Dame de Paris. Spécialiste des cloches, il a pris part au chantier exceptionnel de remise en place des bourdons, lourds de plusieurs tonnes. Son travail a notamment consisté à installer les jougs, pièces massives qui soutiennent les cloches. Ce projet hors norme a réuni plusieurs campanistes venus de toute la France et mobilisé des savoir-faire rares. Et à Toulouse, le dispositif Sac à dos, porté par l'association Vacances Ouvertes, aide les jeunes de 16 à 25 ans à financer leurs vacances. Et cet été, une centaine de jeunes en Haute-Garonne ont pu partir grâce à une aide de 130 € en chèque vacances et des conseils pour organiser leur séjour. L'opération permet aux bénéficiaires de gagner en autonomie, estime de soi et liberté, tout en découvrant de nouvelles villes et activités. À Baraqueville, l'Aveyron accueillera du 12 au 14 septembre le concours national de la race limousine, le plus grand rassemblement mondial dédié à ces bovins. Près de 450 animaux et 150 élevages venus de toute la France y mesureront, offrant aux éleveurs une reconnaissance et un contact direct avec le public. Et enfin, dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Pierre-de-Clairac, l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Garde continue de se développer avec la poursuite des fondations et l'apparition des premières arches en pierre. Le chantier, confié à un nouvel architecte bordelais, vise à mieux maîtriser les coûts et accélérer les travaux. À terme, l'abbaye comprendra une église abbatiale, un cloître, une boutique et un atelier artisanal, poursuivant ainsi une aventure patrimoniale et spirituelle majeure.
Merci beaucoup Carla Ponce, voilà, de l'école de journalisme de Blagnac qui a fait l'actualité de la région et le retour de l'actualité sur Présence, mais vous en avez l'habitude, ce soir à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Tout de suite, je vous propose d'entendre ou de réentendre une émission de témoignage avec Mathias Terrier. Il reçoit une jeune stagiaire que nous avons eue ici pendant quelques mois. Elle s'appelle Félicia.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Félicia. Félicia, 21 ans, étudiante en commerce et qui a vécu une expérience à Lourdes de deux ordres. Une expérience de stage dans le cadre de son cursus universitaire et puis auparavant, une expérience auprès de la personne porteuse de handicap à travers la venue d'une troupe scout qui a accompagné des adultes porteurs de handicap. Bonjour Félicia.
Bonjour Mathias.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes vraiment de passage à Lourdes puisque voilà 4 mois que vous accomplissez un stage qui est dans le cadre de votre chemin d'études, votre cursus universitaire. Vous êtes étudiante en 3e année de commerce.
Exactement.
Donc, on a envie de vous dire, quand on fait du commerce, spontanément, le stage, c'est pas à Lourdes qu'on vient le chercher, normalement. Même si on dit parfois, ah, mais il y a plein de commerces dans les rues de Lourdes. C'est pas ça le sujet. C'est que là, vous êtes en stage au sein du sanctuaire de Lourdes, où normalement c'est d'abord la gratuité, le don de soi, qui est premier.
C'est vrai.
Mais quelle idée, quelle mouche vous a piqué de venir en stage à Lourdes pour parfaire vos études de commerce?
Alors, déjà, j'étais venue à Lourdes il y a 2 ans, comme vous me l'avez dit, et ça m'avait particulièrement touchée. Et après, on doit faire des stages assez diversifiés chaque année. Et là, j'avais l'opportunité de venir le faire à Lourdes, et du coup, je me suis dit, ce serait un plaisir de contribuer aux missions du sanctuaire.
Concrètement, contribuer aux missions du sanctuaire, ça a été pour faire quoi durant ces 4 mois ?
Alors là, c'était au sein du service communication. Donc, je me suis occupée de la promotion de l'application de Lourdes, qui vient d'être lancée l'année dernière, de son développement et de la formation à l'utilisation de l'application de la part des bénévoles et diverses missions. J'ai écrit aussi un peu de contenu, comme des articles ou des posts.
L'image commune qu'on a de Lourdes, c'est un lieu d'apparition, de miracles, de processions, de messes, de célébration en général, de foi, de charité en acte. Or, vous, d'après ce que je comprends, vous étiez dans le côté digital et connecté de Lourdes. C'est un visage qu'on ne connaît pas, en fait, du sanctuaire de Lourdes.
C'est vrai. Mais ça m'a quand même permis de rencontrer plein de gens différents. Et c'était aussi... écrire du contenu sur Lourdes, donc...
Sur les réseaux sociaux.
C'est ça, oui, sur les réseaux.
Donc, vous étiez immergé dans une équipe digitale, de communication, avec des outils, avec tout un tas d'infrastructures, non ? C'est ça, le sujet ? C'est le côté un peu branché de Lourdes.
Exactement. Et puis, Lourdes, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir, mais qui ne peuvent pas forcément dans tous les coins du monde. Et donc, c'est aussi rediffusé... Lourdes pour que tout le monde y ait accès depuis chez soi, en fait.
L'appli, là, dont vous vous êtes chargé de la promotion, en fait, elle permet d'être connecté à Lourdes sans pouvoir y venir ou sans avoir les moyens d'y venir, c'est ça ?
C'est ça. Alors, il y a 2 applications. Il y a l'application Sanctuaire qui permet d'avoir... donc ça, c'est plus l'utilisation sur place qui permet d'avoir les horaires des événements et une carte. Et après, on a aussi l'application Prie avec Lourdes. Et celle-là, elle permet d'avoir le direct à la grotte, la prière du jour pour des gens qui ne sont pas forcément.
C'est un vrai phénomène que le Lourdes digital et le côté web pèlerin. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui rejoint la grotte par ces moyens-là.
Oui.
On s'est chiffré ça aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ce sont des milliers de personnes.
Ce sont des milliers de personnes et en effet, Lourdes est assez connue à l'international. J'étais allée au Mexique un moment et même des Mexicains, ils connaissaient rien de la France, mais ils connaissaient Lourdes.
Donc on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a plus de fréquentation de Lourdes par le digital. Ce sont des dizaines ou des centaines même de milliers de gens hein, qui chaque année, ou des millions même, que des gens qui viennent sur place. Aujourd'hui, tout ça fait un tout, qu'on va dire, de fréquentation globale du sanctuaire, au-delà même de la venue physique.
Je ne sais pas exactement les chiffres, mais en effet, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui suivent Lourdes à l'international.
Donc vous avez vécu 4 mois dans le cadre de ce stage, ici à Lourdes. Vous disiez à l'instant que ce qui vous frappe, c'est la diversité des rencontres. Iriez-vous jusqu'à dire que, même si Lourdes est identifié comme un lieu de foi, qu'on y voit des gens qui sont aussi au seuil de la foi, que... Enfin, il n'y a pas que des convaincus à Lourdes. Voilà le sens de ma question. C'est aussi tout ça, cette réalité de la diversité rencontrée ?
Ah non, pas du tout. Il n'y a pas du tout que des convaincus. Il y a vraiment de tout à Lourdes. Je vois des gens qui ne croient pas, mais juste qui sont là pour voir ce que c'est ou visiter. Et après, il y a des vrais croyants. Il y a tout type de croyants aussi. Donc vraiment, en effet, il y a de tout.
Et vous-même, Félicia, quels ont été les moments de la journée du pèlerin ou de votre séquence là, de 4 mois à Lourdes qui vous ont marqué ? Il y a beaucoup de messes, beaucoup de processions. Il y a la grotte, il y a les pas de Bernadette. Et puis, il y a tout ce que vous avez fait hein, professionnellement.
Ce qui m'a marqué, c'est les rencontres. Vraiment, c'est les gens que j'ai rencontrés. Et c'est l'ambiance de Lourdes, en fait. Voir tous ces pèlerins et tous ces malades aussi. Enfin, il y a plein de personnes en fauteuil. Et dans la vie quotidienne, on les voit pas forcément. Donc, c'est assez touchant.
Vous diriez qu'en fait, la visibilité qu'on donne, sans ostentation, hein, à tout, toutes ces personnes porteuses de handicap, en fait, c'est ça ne donne pas l'impression d'un hôpital à ciel ouvert. Au contraire, c'est de la joie qui se vit.
Plutôt. Oui. Une certaine joie. Il y a aussi la souffrance, mais elle est partagée, on va dire. Ici.
Ça paraît toujours étonnant quand on témoigne de la joie possible malgré la souffrance ou avec la souffrance. Vous avez 21 ans, ça ne vous fait pas peur, cette réalité de souffrance et cette joie possible dans ce cadre-là?
Je pense que, en effet, en fait, on voit des gens qui arrivent à avoir une certaine joie à travers la souffrance, et quand ces personnes-là y arrivent, c'est des témoignages assez forts.
Oui. Des beaux témoignages qui vous touchent vous-même et qui touchent la jeunesse.
Et oui.
Alors parlons-en, vous avez 21 ans. Avant de commencer, vous m'avez dit « je suis catholique pratiquante ».
En effet.
Alors je reprends l'expression, vous êtes catholique pratiquante, mais c'est un héritage où vous dites aujourd'hui « non, mais j'adhère au fond de moi, c'est une démarche personnelle ».
En effet, c'est un héritage, mais c'est aussi ma foi personnelle. C'est-à-dire que c'est ma foi et pas celle de mes parents. Donc voilà, c'est à la fois un héritage et ma foi personnelle.
Oui. Et il y a un moment de votre vie où vous dites « c'est ma foi personnelle ». Parce qu'il y a toute une séquence forcément de la jeunesse durant laquelle on reçoit de ses parents, on reçoit de sa famille, on reçoit de son entourage. Et puis il y a un moment où on est autonome, on prend son envol.
Exactement. Bah, j'ai pas toujours été catholique, enfin pratiquante en tout cas. C'est vrai que c'est cette année, si vous me demandez un moment où j'ai choisi ma foi, c'était clairement en janvier de cette année.
En janvier de cette année. vous savez le dater presque.
Presque.
Il s'est passé quelque chose donc.
J'étais en fait c'était une formation scout et c'était une semaine assez forte où on a vécu assez dans la foi et ça m'a beaucoup aidé dans la foi.
Et là, vous vous êtes dit, j'adhère, j'y crois.
Oui, après, enfin, je me suis dit que j'y croyais et surtout que je comprenais le sens de la messe et que j'aimais aller à la messe. Et après, c'est vrai que se dire toujours j'y crois, il y a toujours du doute et voilà, mais carrément, c'est là où je me suis approprié ma foi.
Et quand vous dites ça, assez spontanément, vous parlez de la messe. En fait, votre porte d'entrée, c'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est par là que vous avez, vous, à un moment, eu l'éclairage de la foi. C'est ça. C'est comme ça que je le comprends.
Alors, en fait, je pense que je croyais déjà en Jésus, la personne, mais j'avais assez du mal avec la messe. Et donc, je pense qu'en janvier, c'est l'aspect plutôt messe qui m'a été que j'ai choisi, mais c'est aussi une grâce.
Oui. Alors, ici à Lourdes, durant 4 mois, s'il est un lieu où s'offre à chacun la possibilité d'accéder au sacrement, c'est bien à Lourdes. Il y a beaucoup de messes. Tous les autres sacrements, bien sûr, aussi sont délivrés. Vous avez eu le temps, dans le cadre de votre stage, de participer un peu à la vie de foi du sanctuaire?
J'ai pu participer aux messes et aux homélies. Après, comme je disais, j'étais là plusieurs mois, donc je n'ai pas fait toutes les processions du soir, mais je pouvais assister à tout ce qui se passait dans le sanctuaire, même en y passant. Je voyais les gens faire les processions et c'était sympathique de regarder.
Oui, c'est surtout les processions du soir qui sont assez édifiantes, qui sont des beaux moments communautaires. Donc, on va, dans la deuxième partie de cette émission, Félicia, revenir sur votre parcours, en particulier alors, au sein de cette troupe scout qui vous mène avec vos cousines, vous allez nous raconter tout ça, à Lourdes, il y a 2 ans.
C'était il y a 2 ans.
Oui, il y a 2 ans, qui a été pour vous un contact très fort avec le monde du handicap. Et donc, vous nous raconterez tout ça dans la deuxième partie de cette émission. Juste auparavant, pour terminer, avant de marquer la pause, sur votre expérience là de stagiaire, étudiante en commerce, vous allez devoir faire un rapport de stage, j'imagine.
Oui.
Vous allez devoir peut-être même faire une soutenance de rapport de stage.
En effet.
Donc vous allez passer devant des profs qui vont forcément vous poser la question, mais étudiant de commerce à Lourdes, quel rapport quoi ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir défendre comme rapport de stage ?
Alors, c'est vrai que j'étais à Lourdes et que c'est un endroit unique et particulier. Après, j'étais dans un service de communication où c'était un service laïque et c'était des missions
professionnelles.
Donc, oui. Voilà.
Oui, donc vous allez pouvoir montrer aux profs qu'on on peut faire du professionnalisme et apprendre des choses techniques et des savoir-faire, y compris dans un lieu comme Lourdes, c'est ça ?
Exactement.
Et donc ce mémoire, il est en cours d'écriture ou vous allez l'écrire dans les semaines et mois à venir ?
Je l'ai commencé. Ah. Il n'est pas terminé, mais je l'ai commencé.
Il est ciblé ? Il est généraliste ? Il raconte tout ? Ou bien vous avez un angle, une thématique que vous abordez de façon très précise ?
Ce qu'on nous demande, c'est expliquer nos missions, mais surtout les analyser. Donc nos succès, ce qu'on a le moins réussi, et ce qu'on en a tiré. Et faire le lien avec notre projet professionnel.
Nous marquons cette pause promise, Félicia, si vous le voulez bien. Je rappelle, vous êtes étudiante en commerce, en troisième année, en stage à Lourdes. Juste après la pause, je suggère que vous nous plongiez dans ce que vous avez vécu il y a 2 ans, c'est-à-dire la venue d'une troupe scout à Lourdes qui accompagne des personnes handicapées, des adultes handicapés. Et vous allez nous dire combien ça a sans doute fait basculer beaucoup de choses dans votre vie, y compris dans vos choix d'après. À tout de suite.
Présence.
Retrouvez toute l'actualité de votre radio en temps réel sur le réseau social Facebook. Les invités de la semaine, les thèmes de vos émissions favorites, les événements religieux à ne pas manquer et bien d'autres informations. Laissez vos commentaires, discutez entre auditeurs et découvrez nos photos et nos vidéos. Connectez-vous sur Facebook et rejoignez la page de Radio Présence pour devenir un acteur de votre radio. Radio Présence, la radio connectée à l'essentiel.
Présence.
De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, notre invitée est Félicia Thiberguin. Félicia, vous êtes étudiante. Et à l'âge de 21 ans, vous êtes en troisième année d'études de commerce à Lille.
Exactement.
Alors, on a parlé dans la première partie de cette émission de ce que vous avez vécu comme stagiaire au service communication du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, donc avec des dimensions très pro pour déployer des savoir-faire, notamment sur les applis du sanctuaire de Lourdes. Il se trouve qu'à un moment marquant, il y a 2 ans, vous venez à Lourdes, vous ne connaissiez pas le lieu.
Non, je ne connaissais pas le lieu.
Du tout. Et comment se fait-il que vous êtes intégré à cette troupe scout pour venir accompagner des personnes handicapées ?
Alors, j'avais une cousine qui était responsable cheftaine d'une troupe handicapée scout d'adultes. Et ils avaient besoin de personnes pour accompagner. Donc, elle m'a proposé. Et à 2 de mes cousines aussi, Germaine. Et on a accepté avec joie. Et c'est comme ça qu'on est venu une semaine à Lourdes.
Et donc, vous venez durant une semaine et vous découvrez quoi ? Vous découvrez le lieu, certes, mais aussi la vie commune avec des personnes qui sont porteuses de handicap.
Exactement, c'était une vraie rencontre avec la personne handicapée. On les accompagnait pendant toute la semaine, on se chargeait de tout, de les aider à s'habiller, à faire la toilette. On était tout le temps avec elles et c'est vrai que c'était hyper touchant. Et c'était hyper fort c'était la rencontre qui m'a touchée.
Être porteur de handicap, évidemment, c'est d'abord une souffrance pour ces personnes. Et vous, qu'est-ce que vous avez découvert en fait de cette relation des personnes qui ont un handicap ? Qu'est-ce qui fait que ça vous a changé, ça vous a bousculé ?
Les relations, elles sont assez simples avec les personnes handicapées et authentiques. Donc, c'est assez en vérité, en fait. Et c'est ça qui m'a touchée.
Vous dites, en fait, on se dépouille de ces oripeaux sociaux, de ces faux-semblants. On est plus en vérité avec des personnes en situation de handicap. Ça veut dire que ça peut être jusqu'à la franchise parfois, jusqu'à une forme de rudesse, parce qu'on est en contact avec la souffrance aussi. Hein. La révolte, parfois, de gens qui disent « Pourquoi moi ?» Non. Et à 21 ans, ça ne vous a pas bousculé au point de vous faire fuir, d'une certaine façon?
Non, pas du tout. Ça ne m'a pas fait fuir. Et au contraire, ça ne fait pas fuir les personnes handicapées. C'est limite plus simple qu'avec les personnes dans la vie courante, enfin, des fois. Parce que des fois, on me dit « Ah, moi, je ne sais pas des fois comment réagir avec une personne handicapée. » Mais c'est super naturel et facile, en fait.
Oui.
Donc ça fait pas fuir, non. Au contraire.
De retour de Lourdes, vous faites un choix après de vie que vous assumez encore, qui est une coloc avec des personnes, des adultes handicapés.
Oui, alors à Lille, en effet, au semestre dernier, j'ai vécu à l'Arche, donc qui est une colocation avec 8 personnes en situation de handicap et 4 étudiants et 2 personnes âgées. Et je l'assume carrément.
Donc vous êtes une quinzaine dans une maison.
C'est ça.
Et vous vivez ensemble, enfin avec chacun aussi sa vie propre, hein, bien sûr. Il y a des étudiants, il y a et des personnes âgées, vous nous l'avez dit. Et puis des personnes qui ont un handicap, de quel type de handicap il s'agit d'ailleurs?
C'est des handicaps légers, c'est des personnes autonomes dans la vie quotidienne, parfois qui ont des aides qui viennent, mais c'est des handicaps, par exemple, trisomie 21 ou autisme.
Est-ce que vous envisageriez, pour la saison, pour l'année prochaine, là, pour la prochaine année universitaire, de loger toute seule, d'avoir votre appart, tranquille, quoi?
Non.
Non, vraiment.
Je me vois pas vivre toute seule. J'aime bien rentrer chez moi et retrouver des gens et partager des choses. Donc non, je me vois pas du tout avoir mon studio toute seule.
Donc ça veut dire que ce choix d'avoir une coloc dans ce cadre-là que vous décriviez, en fait, vous le reconduisez. Vous confirmez ce choix et l'année prochaine, vous continuez.
Ah oui, l'année prochaine, je retourne dans ma coloc.
Le quotidien de ce genre de colocation, quel est-il ? Y a des moments partagés, des moments où chacun va qu'à ses propres occupations, il y a une vie commune.
Donc chacun a ses occupations et ses activités, et il y a aussi une vie commune. Toutes les semaines, on a un repas partagé le jeudi soir, qui est préparé à tour de rôle par les colocs. Et après, on essaye de faire des choses ensemble, des fois le week-end, on se fait des petits événements ou des repas. Et sinon, on a aussi notre vie.
Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, chacun a son chez-soi quand même, dans la grande maison que vous avez.
Oui, on a tous notre petit studio. Et sinon, il y a des pièces, il y a une cuisine partagée, un salon, une salle à manger, un jardin.
Et vous n'envisagez pas de ne pas faire comme ça l'année prochaine, en fait, c'est ça le sujet.
Oui, c'est ça, je n'imagine pas.
Alors, une question qu'on se pose, Félicia, c'est que vous êtes étudiante en commerce, et le monde du commerce est un monde de l'efficacité, de l'efficience, du résultat, de l'évaluation des résultats. Et puis, dans votre vie privée, vous vous dites, moi, je vis, dans le cadre d'une location, en contact avec des personnes porteuses de handicap, dont l'efficacité économique... elle n'existe pas. Enfin, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu schizophrène, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté votre vie privée, puis de l'autre côté votre vie d'étudiante ?
Alors, moi, dans ma vie, j'essaye d'avoir une cohérence. Donc, j'aurai jamais des vies complètement séparées. Et j'essaye d'être la même un peu partout. Mais sinon, non. Les relations aux autres, je ne les vois pas trop en tant que rendement, de toute façon, de manière générale. Et après, ce que j'étudie, j'essayerai dans mon métier plus tard de justement d'avoir cette cohérence et de pas voir les choses que par l'aspect rendement et économique.
Oui. Vous allez entrer en alternance à partir de l'année prochaine. Donc, votre quotidien sera aussi celui d'une société qui a besoin de gagner des sous, d'avoir des bons résultats de gestion, des résultats de vente.
Après, c'est sûr,
du management.
La réalité de l'économie, c'est que il doit y avoir des résultats et des chiffres, mais ça dépend comment c'est fait en fait. Si c'est fait.
Alors, je vous titille un peu, mais. En fait, derrière toutes mes questions, il y a la question l'utilité sociale de la personne, quelle qu'elle soit. En fait, c'est ça le sujet. Vous dites ce que je trouve auprès des personnes porteuses de handicap, je ne le trouve nulle part ailleurs. Notre société a besoin de les accepter tels qu'ils sont. C'est ça que vous diriez ?
Bah, carrément, et je pense que la société elle a besoin d'accepter tout le monde tel qu'on est, et qu'en soi, on est tous un peu... on a tous notre... handicap, entre guillemets, même si...
Oui, ça se voit pas.
Voilà.
Ouais. On a tous nos blessures, nos fragilités.
Voilà.
Au niveau de votre colloque, est-ce qu'on vous interroge sur votre parcours professionnel ? Est-ce qu'il y a des échanges sur ce terrain-là ? Est-ce que vous avez... vous nourrissez les uns les autres, quoi, d'une certaine façon ?
Un peu. Avec les étudiants, oui. Un peu moins avec les personnes handicapées. Sur mon aspect études, mais un peu, oui.
Est-ce qu'il vous arrive de témoigner auprès de vos camarades d'études qui ne savent peut-être pas que vous vivez aussi ça, c'est-à-dire cette approche de la personne humaine, côté privé, alors que vous, côté professionnel, bah, j'imagine que vous suivez le cursus que les autres suivent. Est-ce que vous arrive de témoigner dans ce monde des étudiants en commerce ?
Alors, je le crie pas sur tous les toits. Par contre, si on me demande et que ça vient dans la conversation, je le dis. Et des fois, les gens sont intéressés, donc ils me posent des questions et je leur explique.
Oui. Et généralement, il n'y a pas d'objections qui sont déstabilisantes.
Non.
Non.
Souvent, les gens sont plutôt positifs.
Ma toute dernière question, Félicia, ça concerne Lourdes. Vous partez demain. Qu'est-ce que vous allez poser comme dernier acte ici à Lourdes, en fait ? Vous allez peut-être aller à la grotte, je sais pas. Ou...
Je pense que je vais faire un petit tour à la grotte et je vais juste observer un peu le sanctuaire, je pense, observer les gens. Je sais pas encore si j'irai à la messe avant de partir, mais. Mais oui, je vais juste profiter de mes derniers instants à Lourdes. Et,
vous imprégnez une dernière fois des lieux.
Voilà. Et aussi dire au revoir aux personnes, profiter encore des personnes de mon service, des responsables, des bénévoles.
Oui, je crois qu'ils vous ont bien accueilli au sein du service. Ouais. Mmh. Merci beaucoup pour votre témoignage, Félicia Thiberguin. Vous retournez à Lille. Bonne suite pour vous, pour vos études.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt, au revoir.
Un grand merci, au revoir.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand va le prendre ?
Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence dans le Comminges 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La célébration de la messe sauve le monde. Léon XIV a reçu ce matin plus de 300 servants de messe français.